Chapitre 50. J'aime non tailler.
S'il y avait, désormais, des gemmes non taillées parmi les radieux, c'étaient les façonneurs, car bien qu'ils fussent pleins d'initiative, ils étaient également fantasques, et comme l'écrivit Invia, à leur propos, tenant pour acquis que d'autres partageaient son avis, capricieux, frivoles et guère fiables, peut-être portait-elle là un jugement intolérant, comme elle en formulait fréquemment. Car on disait de cet ordre qu'il était d'une grande variété et rassemblait des tempéraments fort dissemblables, exception faite d'un amour partagé pour l'aventure, la nouveauté et la singularité. Extrait du livre des Radieux, chapitre 7, page 1.
Assis sur une chaise à dossier haut, une coupe de vin à la main, Adeline écoutait la tempête majeure se déchaîner à l'extérieur. Il aurait dû se sentir en sécurité dans cette forteresse de pierre. Mais il y avait dans les tempêtes quelque chose qui anéantissait toute impression de sécurité, aussi rationnelle soit-elle. Il accueillerait avec soulagement la saison des pleurs et la fin des tempêtes majeures pour quelques semaines. Adeline leva sa coupe vers Élite, qui le dépassa d'un pas lourd. Il ne l'avait pas vue sur la terrasse de la taverne, mais cette pièce servait également d'abri anti-tempête pour plusieurs boutiques du marché extérieur. « Êtes-vous prêt pour notre duel, Élite ?» demanda Adeline. « Vous m'avez déjà fait attendre une semaine entière. » Le petit homme au crâne dégarni but une gorgée de vin, puis baissa sa coupe sans regarder Adeline.
« Mon cousin prévoit de vous tuer pour m'avoir défié, » répondit-il, « juste après m'avoir tué pour avoir accepté. »
Il se tourna enfin vers Adeline.
« Mais quand je vous piétinerai dans le sable et m'emparerai de tous les éclats de votre famille, c'est moi qui serai riche et lui qui sera oublié. Suis-je prêt pour notre duel ? Je l'attends impatiemment, Adeline Colin. »
« C'est vous qui vouliez attendre, » fit observer Adeline.
« Afin d'avoir plus de temps pour savourer ce que je vais vous faire. »
Élite sourit, les lèvres blanches, puis se remit en route. Cet homme lui donnait la chair de poule. Adeline s'occuperait de lui dans 2 jours, la date de leur duel. Mais auparavant, la réunion avec le porte-éclat Parchendi avait lieu demain. Elle planait au-dessus de sa tête comme un cumulonimbus. S'il trouvait enfin la paix, qu'est-ce que ça signifierait ? Il retourna cette pensée dans sa tête, tout en étudiant son vin et en écoutant distraitement Élite bavarder avec quelqu'un derrière lui. Adeline ne reconnaissait-il pas cette voix ? Il se redressa vivement et regarda par-dessus son épaule. Depuis combien de temps Sadéas se trouvait-il là ? Et pourquoi Adeline ne l'avait-il pas aperçu en entrant dans la pièce ? Sadéas se tourna vers lui, affichant un sourire calme. « Peut-être qu'il va simplement... » Sadéas s'avança nonchalamment vers Adeline, main jointe derrière son dos, vêtue d'une tenue à la mode. Court manteau marron ouvert à l'avant et cravate foulard verte brodée. Les boutons qui bordaient l'avant du manteau étaient des gemmes, des émeraudes assorties à sa cravate foulard. Bourrasque. Il n'avait aucune envie d'affronter Sadéas aujourd'hui. Le haut prince prit le siège voisin de celui d'Adeline, de sorte qu'il tourne le dos à une cheminée qu'un parche avait entrepris d'alimenter. Un bourdonnement sourd de conversation nerveuse remplissait la pièce. On ne pouvait jamais être totalement à l'aise, aussi joli soit le décor, quand une tempête majeure se déchaînait à l'extérieur.
« Jeune Adeline, » lui lança Sadéas, « que pensez-vous de mon manteau ?»
Adeline but une gorgée de vin et n'osa pas répondre. « Je devrais simplement me lever et m'en aller. » Mais il n'en fit rien. Une petite partie de lui souhaitait que Sadéas le provoque, chasse ses inhibitions, le pousse à faire quelque chose de stupide. Tuer cet homme, ici et maintenant, conduirait sans doute Adeline à se faire exécuter ou, au minimum, exiler. Dans les 2 cas, ça en vaudrait peut-être la peine.
« Vous avez toujours eu l'œil en matière de style, » poursuivit Sadéas. « Je souhaiterais connaître votre opinion. Je trouve ce manteau splendide, mais je crains que sa coupe courte ne soit près d'être démodée.
Quelle est la dernière mode de Liafort ?
Sadéa se tira sur l'avant du manteau et déplaça sa main de manière à exhiber une bague assortie au bouton. L'émeraude de la bague, comme celle de la veste, n'était pas taillée. Elle dégageait un faible éclat de fulgiflamme.
Des émeraudes non taillées,
songea Adeline, avant de lever les yeux pour croiser le regard de sa déesse. Ce dernier sourit.
« Ces gemmes sont des acquisitions récentes, » commenta sa déesse. « J'y suis très attachée. »
Il les avait obtenues lors d'une course au pont avec Rutard, à laquelle il n'était pas censé participer, en se précipitant pour précéder les autres hauts princes, comme dans l'ancien temps, où chaque prince cherchait à être le premier et à décrocher le trophée.
« Je vous déteste, » chuchota Adeline.
« Et vous avez raison, » répliqua Sadéas en lâchant son manteau.
Il désigna les gardes hommes de pont qui les observaient non loin de là avec une franche hostilité.
« Mes anciennes propriétés vous traitent-elles bien ? J'ai vu leurs semblables patrouiller dans le marché. Ça m'amuse pour des raisons que je doute de pouvoir jamais exprimer correctement. »
« Ils patrouillent, » répondit Adeline, « afin de créer un meilleur Aletkar.
Est-ce là ce que veut Dalina ? Je suis étonné de l'apprendre. Il parle de justice, bien sûr, mais il ne la laisse pas suivre son cours, pas comme il le faudrait. »
« Je sais où vous voulez en venir, Sadéas, » aboya Adeline. « Vous êtes contrarié qu'on ne vous ait pas autorisé à placer des juges dans notre camp de guerre en tant que haut prince de la formation. Eh bien, je vous informe que mon père a décidé de laisser
au prince de la formation.
Vous n'êtes pas au courant ?
J'ai récemment renoncé à ce titre.
Quoi ?
Oui, répondit Sadéas. Je crains de n'avoir jamais été à la hauteur pour ce poste. Mon tempérament chalachéen, peut-être. Je souhaite bonne chance à Dalinar pour me trouver un remplaçant, même si j'ai cru comprendre que les autres hauts princes se sont accordés à dire qu'aucun d'entre nous n'est adéquat pour de telles nominations.
Il renonce à l'autorité du roi, songea Adeline. Nom des foudres. C'était très mauvais signe. Il serra les dents et se surprit à tendre la main sur le côté pour invoquer sa lame. Non. Il baissa la main. Il allait trouver un moyen d'obliger cet homme à l'affronter sur l'arène de duel. Tuer Sadéas maintenant, bien qu'il le mérite amplement, ne ferait qu'affaiblir les lois et les codes même que le père d'Adeline cherchait à faire respecter au prix de si gros efforts. Toutefois, nom des bourrasques, Adeline était réellement tentée.
Sadéas sourit de nouveau. « Me prenez-vous pour un homme malveillant, Adeline ?»«
C'est un terme trop simple, » grinça celui-ci. « Vous n'êtes pas simplement malveillant. Vous êtes aussi une anguille égoïste et couverte de crémons séchés qui cherche à étrangler ce royaume avec sa main bâtarde. »«
Quelle éloquence !» commenta Sadéas. « Vous êtes bien conscient que j'ai créé ce royaume. »
Vous n'avez fait qu'aider mon père et mon oncle.
Désormais, tous deux disparus, répondit Sadéas. L'épine noire est aussi morte que ce vieux gavillard. À la place, ce sont deux idiots qui dirigent ce royaume, et chacun d'entre eux n'est, d'une certaine façon, que l'ombre d'un homme que j'ai aimé.
Il se pencha vers l'avant et regarda Adeline droit dans les yeux.
Je ne suis pas en train d'étrangler Aletkar, mon cher. J'essaie de toutes mes forces d'en maintenir quelques parcelles assez fortes pour surmonter l'effondrement que votre père est en train de provoquer.
« Ne m'appelez pas mon cher, » siffla Adeline.
« Entendu, » lança Sadéas en se redressant. « Mais je vais vous dire une chose. Je suis ravi que vous ayez survécu aux événements de la tour ce jour-là. Vous ferez un excellent haut prince dans les mois à venir. J'ai le sentiment que dans une dizaine d'années, après une guerre civile prolongée entre nous deux, notre alliance sera puissante. D'ici là, vous comprendrez pourquoi j'ai agi ainsi.
J'en doute fort. Je vous aurais planté mon épée dans le ventre bien avant ça, Sadéas. Sadéas leva sa coupe de vin, puis s'éloigna pour rejoindre un autre groupe de Palsiris. Adeline poussa un long soupir d'épuisement, puis se laissa aller en arrière contre sa chaise. Près de là, son garde homme de pont, le gaillard de petite taille aux tempes grisonnantes, lui adressa un hochement de tête respectueux. Adeline resta affalée là, totalement vidée, bien après que la tempête eut pris fin et que les gens eurent commencé à s'en aller. De toute manière, il préférait attendre que la pluie ait entièrement cessé avant de partir. Il n'avait jamais aimé l'apparence de son uniforme lorsqu'il était mouillé. Enfin, il se leva, alla chercher ses deux gardes et sortit de la taverne pour trouver un ciel gris et un marché extérieur désert. Il avait presque fini de ruminer la conversation avec sa déesse et se rappelait constamment que la journée jusque-là s'était très bien passée. Chalan et sa voiture étaient déjà partis, bien entendu. Il aurait pu commander un véhicule pour lui-même, mais c'était agréable de marcher en plein air après être resté si longtemps enfermé. Un air humide et frais, laissé par la tempête. Les mains dans les poches de son uniforme, il emprunta un chemin qui traversait le marché extérieur, contournant des flaques sans se presser. Des jardiniers avaient commencé à faire pousser du schiste écorce ornemental le long du sentier, bien qu'il ne soit encore haut que de quelques centimètres. Il pouvait falloir des années pour faire pousser correctement une bonne crête de schiste écorce. Ces deux hommes de pont insupportables le suivaient. Non pas qu'ils dérangent Adeline sur un plan personnel. Ils semblaient être des individus plutôt sympathiques, surtout en l'absence de leur commandant. Simplement, Adeline n'aimait pas avoir besoin de gardiens. Bien que la tempête ait progressé vers l'est, l'après-midi restait morose. Les nuages voilaient le soleil qui redescendait lentement du zénith vers l'horizon lointain. Il ne croisa guère de gens, et ses seuls compagnons furent donc les hommes de pont. Enfin, en dehors d'une légion de crémillons qui avaient émergé pour se nourrir des plantes qu'il appelle l'eau des flaques. Pourquoi les plantes passaient-elles tellement plus de temps dans leurs coquilles ici qu'elles ne le faisaient en Aletkar? Chalan devait le savoir. Il sourit et s'obligea à remiser les pensées relatives à sa déesse tout au fond de son cerveau. Cette relation avec la jeune femme paraissait fonctionner, mais ça semblait toujours fonctionner au départ. Il contint donc son enthousiasme. Elle était vraiment merveilleuse, exotique, spirituelle, et pas franchement étouffée par la bienséance à Letty. Elle était plus intelligente que lui, mais ne le faisait pas se sentir idiot pour autant. C'était un point important en sa faveur. Il sortit du marché, puis traversa le terrain à ciel ouvert au-delà et finit par atteindre le camp de guerre de Dalinar. Les gardes le laissèrent passer avec des saluts impeccables. Il s'attarda dans le marché du camp de guerre, comparant les marchandises qu'il y voyait avec celles du marché proche du pinacle.
Qu'arrivera-t-il à cet endroit ? Se demanda Adeline, quand la guerre s'arrêtera.
Un jour ou l'autre, elle prendrait fin. Peut-être demain, lors des négociations avec le porte-éclat par Shendi. La présence à Letty ne s'arrêterait toutefois pas là, pas alors qu'il restait des démons des gouffres à chasser. Mais il ne pourrait tout de même pas maintenir une population si grande. Se pouvait-il réellement qu'il soit en train d'assister à une délocalisation permanente du siège du roi? Quelques heures plus tard, après avoir consacré du temps à chercher quelque chose pour Chalan dans les bijouteries, Adeline et ses gardes atteignirent le complexe de son père. Ses pieds commençaient à lui faire mal, et la nuit était tombée sur le camp. Il bâilla et s'avança dans les profondes entrailles de la résidence fortifiée de son père. N'était-il pas grand temps qu'il lui bâtisse un manoir digne de ce nom? C'était très bien de vouloir montrer l'exemple à ses hommes. Mais une famille comme la leur aurait dû maintenir un certain niveau de vie. Surtout si les plaines brisées devaient demeurer aussi importantes qu'elles l'avaient été. C'était... Il hésita, s'arrêta à un croisement et regarda à droite. Il avait eu l'intention de se rendre aux cuisines pour y prendre un encas, mais un groupe d'hommes se déplaçait dans l'autre sens en projetant des ombres. Murmures étouffés. « Qui va là ?» demanda Adeline d'une voix insistante en se dirigeant vers le rassemblement, suivi par ses deux gardes. « Soldats, qu'avez-vous découvert ?» Les hommes se retournèrent précipitamment pour le saluer, lance sur l'épaule. C'étaient encore des hommes de pont de l'unité de Kaladin. Derrière eux se trouvaient les portes de l'aile où Dalinar, Adeline et Rénarine avaient leur quartier. Ces portes étaient ouvertes, et les hommes avaient posé des sphères sur le sol. Que se passait-il? En temps ordinaire, deux ou peut-être quatre hommes seraient de garde ici. Pas huit. Et pourquoi y avait-il un parche vêtu d'un uniforme de garde qui tenait une lance avec les autres?
« Mon capitaine !» lança un homme dégingandé aux longs bras à l'avant du groupe d'hommes de pont. « Nous étions en route pour aller voir le Haut-Prince quand... »
Adeline n'entendit pas la suite. Il se fraya un chemin à travers le groupe et vit enfin ce que les sphères éclairaient sur le sol du salon. De nouveaux glyphes gravés dans la pierre. Adeline s'agenouilla et tenta de les lire. Malheureusement, ils n'avaient pas été tracés en formant un dessin pour l'y aider. Il semblait s'agir de nombres.
« 32 jours, dit l'un des hommes de pont, un Azéen de petite taille. « Cherchez le centre. »«
Damnation.
En avez-vous parlé à quiconque ?» demanda Adeline.
« Nous venons de le découvrir, » répondit l'Azéen.
« Postez des gardes aux deux extrémités du couloir, » dit Adeline. « Et envoyez chercher ma tante. »
Adeline invoqua sa lame, la renvoya, puis l'invoqua de nouveau. Un tic nerveux. La brume blanche apparut, sous forme de petites lianes poussant dans les airs, avant de former brusquement une lame d'éclat, qui pesa soudain de tout son poids dans sa main. Il se tenait debout dans le salon, avec ses marques menaçantes qui le toisaient comme pour le défier en silence. La porte close gardait les hommes de pont à l'extérieur, de sorte que seuls Dalinar, Navani et lui entendent la discussion. Adeline voulait utiliser la lame pour effacer ses maudits glyphes. Dalinar avait prouvé qu'il était saint d'esprit. Tante Navani avait traduit un document presque entier du chant de l'aube en utilisant les mots des visions de père pour se guider. Ces visions provenaient du Tout-Puissant. Tout ça avait un sens. Et maintenant, ceci.
« Ils ont été faits à l'aide d'un couteau, » déclara Navani, agenouillé près des glyphes.
Le salon était une vaste zone ouverte que l'on utilisait pour recevoir des visiteurs ou tenir des réunions. Les portes au-delà menaient aux bureaux et aux chambres.
« Ce couteau, » répliqua Dalinar,
levant devant lui une arme dans le style de celle que portaient la plupart des pâles iris.
« Mon couteau. »
Le tranchant en était émoussé et comportait toujours des éclats de pierre provenant du mur. Les éraflures correspondaient à la taille de la lame. Il l'avait découvert devant la porte du bureau de Dalinar où il avait passé toute la tempête majeure. Seul. La voiture de Navani avait été retardée, et elle avait été contrainte de regagner le palais pour éviter de se retrouver prise dans la tempête.
« Quelqu'un d'autre a pu le prendre et faire ça !» aboya Adeline.
« On a pu se faufiler dans votre bureau, s'en emparer pendant que vous étiez absorbé par les visions et venir ici. »
Les deux autres se tournèrent vers lui.
« Souvent, » remarqua Navani, « la réponse la plus simple est la bonne. »
Adeline soupira, renvoya sa lame et se laissa tomber dans un fauteuil près des glyphes qui le contrariaient. Son père se tenait bien droit. En réalité, Dalinar Colline ne semblait jamais s'être tenu aussi droit qu'en cet instant. Main jointe derrière son dos, regard détourné des glyphes, dirigé vers le mur, vers l'est. Dalinar était une pierre, un rocher trop gros pour que les tempêtes elles-mêmes le déplacent. Il semblait si sûr. C'était un élément auquel s'accrocher.
« Vous ne vous rappelez vraiment rien ?» demanda Navani à Dalinar en se levant.
« Non. » Il se retourna vers Adeline. « Je crois qu'il est désormais évident que je me trouvais derrière chaque inscription. » « Pourquoi cette idée te dérange-t-elle, mon fils ?»«
C'est de vous imaginer en train de griffonner sur le sol, » répondit Adeline en frissonnant. « Perdu dans l'une de ces visions, sans pouvoir vous contrôler. »
« Le chemin que m'impose le Tout-Puissant est très étrange, » constata Dalinar. « Pourquoi faut-il que j'obtienne les informations ainsi, à travers des éraflures sur le sol ou le mur ? Pourquoi ne pas me le dire clairement lors des visions ?»
« C'est de la prédiction. Vous le comprenez bien.
lui dit Adeline tout bas. « Des visions de l'avenir. Ces choses-là appartiennent au néantifère. »
« Oui. » Dalinar se concentra. « Cherchez le centre. Qu'en pensez-vous, Navani? Le centre des plaines brisées? Quelle vérité s'y cache donc ?»«
Les Parchendi, de toute évidence. »
Il parlait du centre des plaines brisées comme s'il connaissait cet endroit. Mais aucun homme ne s'y était jamais rendu, seulement les Parchendi. Pour les Aleti, le mot « centre » faisait simplement référence à la vaste étendue de plateaux inexplorés au-delà des bordures familières.
« Oui, » confirma le père d'Adeline. « Mais où ? Peut-être se déplace-t-il ? Peut-être n'y a-t-il pas de cité Parchendi au centre ?»
« Il ne serait en mesure de se déplacer que s'il disposait de spiricantes, » répondit Navani. « Ce dont je doute fort, personnellement. Ils doivent s'être retranchés quelque part. Ce n'est pas un peuple nomade, et il n'y a aucune raison pour qu'ils se déplacent. »
« Si nous parvenons à faire la paix, » reprit Dalinar d'une voix songeuse, « il nous serait beaucoup plus facile d'atteindre le centre. »
Il se tourna vers Adeline.
« Demande aux hommes de pont de remplir ces éraflures de crémons. » puis de tirer le tapis par-dessus cette partie du sol.
« Je vais m'en occuper. »«
Parfait, » dit Dalinar, l'air distant. « Ensuite, va dormir un peu, mon fils. Demain sera une grosse journée. »
Adeline hocha la tête.
« Père, saviez-vous qu'il y a un parche parmi les hommes de pont ?»«
Oui, » répondit Dalinar. « Ils en comptent un parmi leurs effectifs depuis le début. » mais ne l'ont armé qu'après m'avoir demandé la permission.
« Pourquoi avez-vous fait une chose pareille ?»«
Par curiosité, » répliqua Dalinar.
Il se retourna pour désigner les glyphes sur le sol.
« Dites-moi, Navani, si l'on suppose que ces nombres désignent une date, s'agit-il d'un jour où surviendra une tempête majeure ?»«
32 jours ?»
demanda Navani.
« Ce sera au beau milieu de la saison des pleurs. 32 jours ?» Ce ne sera même pas la fin exacte de l'année, mais 2 jours avant. Je ne comprends absolument pas ce que ça signifie.
Tant pis. C'était une réponse trop pratique de toute manière. Très bien. Autorisons les gardes à entrer et faisons-leur jurer le secret. Ce serait une mauvaise idée de semer la panique.